on peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 7 ans ou 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, entre les poteaux, Nicolas Paolorsi.
Salut à tous, on a encore du mal à réaliser, du mal à digérer, bien sûr, cette élimination de notre 15 de France en quart de finale de sa Coupe du Monde. Mais la compétition continue et vous le savez, RMC est la radio officielle de cette Coupe du Monde. Donc on sera encore présent tous les jours pour un épisode d'Entre les Poteaux. On va essayer de vous proposer des contenus, des thématiques un peu différentes. Donc n'hésitez pas à relayer le podcast, à liker, on attend vos commentaires. Même si vous avez envie, hein, franchement, de parler de certains thèmes, de certains sujets, contactez-nous. On est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement. Bien évidemment. Aujourd'hui, on va revenir sur quelque chose qui va vous faire mal, auditeurs d'Entre les Poteaux. Revenir sur l'arbitrage de Ben O'Keefe pendant ce France-Afrique du Sud. Surtout, on va essayer d'élargir le débat sur le niveau, la cohérence de l'arbitrage pendant cette Coupe du Monde. On va essayer de savoir si vraiment Ben O'Keefe a arbitré contre les Français. Est-ce qu'on est, nous, observateurs, supporters, assez sensibilisés aux règles pour comprendre cet arbitrage? Avec nous, il a une autorité naturelle qui laisse penser qu'il aurait été un excellent arbitre respecté. Wilfried Templier. Et notre poteau du jour. Salut Wilfried.
Repos. Bonjour à tout le monde.
Pour t'accompagner, Alexandre Ruiz est notre deuxième poteau du jour. Actuel manager de Soyons Angoulême en Pro D2. Ancien arbitre de Top 14. Ancien arbitre international. Salut Alexandre.
Bonjour.
C'est un plaisir de t'accueillir. Ouais, champion de France avec Montpellier. Ouais, c'est vrai que j'ai pas dit tout le palmarès, mais on a que 12 minutes de podcast.
Il a plusieurs vies, Alex.
Ouais, c'est ça, c'est pour ça. On a que 12 minutes de podcast, sinon on va raccrocher. On aura à peine fini le palmarès. Les gars, on se plonge dans cet Entre les Poteaux spécial arbitrage, c'est parti. Wilfried, tu vas nous faire un peu le récap de quelques actions litigieuses pendant ce France-Afrique du Sud. C'est vrai qu'on en parle énormément. Pour tout vous dire, je prends mon cas perso, mais ce matin encore, j'avais des copains qui m'envoyaient des messages en me disant « Mais c'est scandaleux !»
Ça déchaîne les passions.
Bah ouais, c'est scandaleux, cet arbitrage de Ben O'Keefe, on s'est fait enfler. Donc on voulait avoir l'expertise d'un arbitre, une expertise technique pour savoir est-ce que Ben O'Keefe a fauté. D'ailleurs, on précise, Wilfried, qu'il a été désigné pour arbitrer une demi-finale. Hein,
exactement. L'Afrique du Sud, il réarbitre l'Afrique du Sud samedi soir face à l'Angleterre, effectivement, Ben O'Keefe, arbitre néo-zélandais. Pas le plus expérimenté, mais pas la 26 semaines non plus. Hein. Ben O'Keefe, on le précise à la bord de ce match, de ce quart finale qu'il a arbitré, de cette demi qu'il va arbitrer tout simplement. Donc néo-zélandais, c'était son 42e match, test match, son 7e match de Coupe du Monde. Et donc oui, évidemment, on voulait revenir. Alors on va pas tout décortiquer, mais bien les sûr. Actions les plus marquantes, Alexandre, on voulait en parler avec toi. Celle de la 7e minute, allons-y directement, tout le monde voit ça, alors que les Bleus sont à 5 mètres de la ligne des box, il y a Etsebet qui coupe une passe de la main. Tout le monde crie au scandale, crie à en avant volontaire. Le ballon tombe au sol. Nous, en revoyant, on a eu l'impression que le ballon revenait un peu vers le camp des Springboks. Quelle est ta vision de cette action?
Tout d'abord, bonjour à tous. Écoute, merci de votre invitation. Je trouve que c'est bien aussi de pouvoir expliquer des situations comme ça, quand elles sont importantes. Je crois que tous supporters que nous sommes, quand c'est l'équipe de France ou les clubs de chacun d'entre nous, on a cette partie qui nous manque parfois d'objectivité, peut-être. Et donc, c'est vrai qu'avec l'échange qu'on a eu ce matin, je trouve que c'est cool de pouvoir en discuter. Si on prend le cas de figure de Ben O'Keefe, il y a plusieurs paramètres, me semble-t-il, à prendre en compte. Tout d'abord, dire que moi, je le connais personnellement pour avoir vécu avec lui la Coupe du Monde des moins de 20 en 2014 à Nouvelle-Zélande, la Coupe du Monde au Japon avec lui. Dire que c'est une personne intègre, je le pense fortement.
Il est ophtalmo, à la base.
Médecin
ophtalmo. Ouais.
Ouais, c'est ça, il est médecin. Donc je pense que vraiment, c'est une personne intègre. Ça, c'était important que je puisse aussi le dire. Le deuxième point, pour revenir par rapport à l'action, comme je t'ai fait part de mon point de vue ce matin, il faut que le grand public comprenne une chose, c'est que dans le fonctionnement de l'arbitrage vidéo, pendant les matchs, il y a en fait 12 écrans qui sont gérés par Abi Vidéo. À ce moment-là, quand une décision est prise sur le terrain, comme ce fut le cas de Etsebet, quand il peut avoir un doute, il y a une communication qui se fait entre les officiels sur le match. Oui. Et lui, il a la possibilité de revoir les images en live, l'arbitre vidéo. Ouais. Et donc, tout en sachant que l'en avant volontaire, l'en avant délibéré, c'est considéré comme un acte de jeu déloyal. Et que l'arbitre vidéo, il a toute la possibilité, à partir du moment où les images sont claires, de pouvoir intervenir. Et là, il faut dire que, même toi le premier, Wilfried, tu viens de te dire, on pourrait avoir un doute, on pourrait penser que...
C'est vrai qu'on n'a pas l'image très claire. Dans le stade, on a l'impression que c'est un attentat, quoi, que c'est un... il tue l'action. Ah ouais, moi, et c'est vrai qu'en le regardant, oui, ta première vision, ça t'a fait ça aussi.
Ben moi, sur mon canapé, tu vois, je réagis pareil que toi. Je me dis, mais putain, mais c'est pas possible. Sauf qu'en fait, il n'est pas interdit dans la règle de taper le ballon dans ton camp. Il est clairement interdit de taper le ballon volontairement dans le camp adverse, ce qui est considéré comme un avant volontaire. Et là, sur le cas de figure, on ne peut pas clairement se positionner en disant que Ben O'Keefe est tort avec la décision de terrain et qu'il n'y a aucune image qui montre que l'arbitre vidéo pourrait intervenir.
Il ne peut pas, dans sa communication, déjuger l'arbitre vidéo qui lui dit qu'il a vu quelque chose par son sentiment premier sur le terrain.
Tout le monde, tout le monde peut se déjuger.
Ouais.
Tout le monde peut se déjuger.
Oui, mais il n'a pas les écrans, Ben O'Keefe, par exemple. Voilà. Donc, si l'arbitre vidéo lui dit j'ai vu ça, il ne peut pas lui dire non, non, pour moi c'est clair sur le terrain. Si, il peut lui dire. Il peut lui dire non, je
en fait, c'est la chronologie diverse, inverse plutôt. C'est-à-dire que Ben O'Keefe sur le terrain, il dit je. Ben O'Keefe, en étant dit je sur le terrain, ce qui se passe par la suite, c'est que l'arbitre vidéo, quand même, a un doute parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement, ce genre d'action. Et donc, me semble-t-il, va consulter et valider l'avis du terrain de Ben O'Keefe. Donc, pour moi, je n'étais pas choqué par la suite parce que je n'ai pas d'évidence.
Et il y a bien sûr la transformation de Ramos, j'imagine. En fait, Alex, ce qu'on peut peut-être reprocher à Ben O'Keefe sur ce match, et en tout cas, nous, les observateurs, c'est ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi il ne fait pas appel à l'arbitrage vidéo. Donc, tu en as un peu parlé, mais sur la transformation de Ramos, par exemple...
C'est ce qu'il vient de dire, en fait. Quoi. C'est qu'il doit faire confiance à son TMO, qui est Brendan Pickerill, qui est néo-zélandais comme lui. Puisque oui, sur la transformation de Ramos, alors là, il y a divers avis. Hein. Je sais que ton ancien collègue Maxime Chalon, lui, pense qu'il est parti avant. Là, on rentre dans une zone grise, peut-être, Alex, tu peux l'expliquer, parce que c'est l'histoire de mouvement d'épaule de Ramos, c'est ça?
En fait, il y a plusieurs points. C'est bien qu'on puisse dire que... il faut se dire que même si l'arbitre de terrain ne prend pas de décision en live, comme le cas de la transformation, le cas d'Etsebetz, etc., etc., il faut quand même savoir qu'à ce moment-là, l'arbitre vidéo, c'est ce que j'ai répété depuis tout à l'heure, lui, il consulte, c'est-à-dire qu'il valide ou non la décision. Ouais. Donc même s'il n'y a pas d'appel formel, parce qu'en France, il faut savoir que le top 14 de la Pro D2 se joue avec un écran comme quand on est assis sur notre canapé le dimanche, quand on regarde le match, et qu'il y a un écran décalé de 7 secondes seulement. D'accord. Donc, d'accord. Il y a deux écrans dans une pièce où les arbitres vidéo, en fait, ils ont le live, ce qu'on voit, nous, quand on est supporter lambda sur notre canapé, et la même image qui repart 7 secondes après avec le même angle de caméra. Alors que sur les matchs internationaux, les matchs de Coupe d'Europe, il y a plusieurs angles possibles. Et là, c'est pour ça qu'il y a deux techniciens qui sont à côté d'arbitres vidéo qui passent ou donnent les images possibles à l'arbitre vidéo pour qu'il valide ou pas avant d'appeler l'arbitre de centre, d'où le protocole.
D'accord. Mais et donc, par rapport à cette action ?
Pardon ? Donc, l'action, en fait, comme je te disais ce matin, l'histoire, c'est que j'ai vu que Max disait que c'était à retaper sans charge possible. Ça, c'est la définition de la règle, Max Chalon. En fait, à partir du moment où le joueur commence sa course d'élan, le joueur qui se situe, en fait, il doit se situer dans l'embut, c'est la remarque de Max Chalon. Max dit que le joueur n'est pas dans l'embut et qu'il a un pied à l'extérieur, donc du coup, il serait en position illégale. Mais sinon, à partir du moment où le joueur se situe dans l'embut et qu'il commence sa course d'élan pour chasser, à partir du moment où le botteur, lui, entame sa course d'élan aussi.
C'est ce qu'on disait, sa course d'élan. Est-ce qu'il y a un mouvement d'épaule un peu en arrière, comme ça, comme il fait Ramos? C'est considéré comme le début d'une course d'élan. Oui, peut-être. Précisé dans la linéa l'article 22. On ne l'a peut-être pas, ça.
C'est ça, en fait. Je pense qu'on n'a pas écrit clairement. Est-ce que c'est la course d'élan? Est-ce que c'est la jambe qui part? Est-ce que c'est le mouvement? Moi, me semble-t-il qu'il enclenche une course d'élan. Et alors après, le débat, il se serait situé par rapport à la remarque de Max Chalon. Est-ce que ce joueur se situerait dans l'embut ou pas?
Tu parlais de Maxime Chalon, vous pouvez retrouver cet article sur le site rmcsport.fr, hein. Vous écoutez Entre les poteaux, vous avez consulté l'article et franchement là derrière vous avez une expertise de dingue.
On essaye d'être pédagogique parce qu'on en entend de tout, évidemment. Faut pas regarder les réseaux sociaux des fois parce que c'est il y a plein d'arbitres, il y a les meilleurs arbitres du monde partout, mais c'est vrai qu'on essaye de décortiquer. Peut-être que aussi on peut préciser que l'arbitre, comme les joueurs, peut faire une erreur sur le terrain aussi. Il peut faire un bon jour, un mauvais jour. On essaye de le dire à la radio, nous c'est pas facile parce que ça déchaîne les passions, mais et ils sont humains, les arbitres, et voilà. On enchaîne sur une autre situation, sur le Jesse Creel qui va défier Antoine Dupont là, devant les bandes touches, devant la ligne. Alors justement, ton collègue disait qu'il avait tendance à mettre la main ouverte. Franchement, en regardant, moi j'ai du mal à voir avec l'avant-bras, le bras en avant qui arrive dans le cou d'Antoine Dupont.
Il essaie de faire un raffut en fait. Hein,
alors, est-ce que ça passe d'abord par la poitrine et ça monte? Il y a aussi une chose comme ça. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur Creel?
Ouais, en fait, ce qui est très compliqué, comme tu le disais, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbitres, mais ça, quand j'étais dans cette fonction-là, même aujourd'hui dans une autre fonction d'entraîneur, c'est la même chose. Tu as l'impression d'avoir 10 000 entraîneurs devant leur écran de télévision ou sur l'ordinateur. Quand tu arbitres, c'est pareil, tu entends de tout et n'importe quoi. C'est pour ça que c'était important que je remette en avant le fait que l'intégrité de Ben O'Keefe, elle est sans aucune demi-mesure. Et ça, pour le connaître, je le pense vraiment. Ensuite, pour répondre à cette question-là, il y a deux choses. C'est vrai que peut-être ce genre d'action-là aurait mérité un appel formel pour essayer d'éclaircir la situation. Parce que même moi j'ai un doute de savoir clairement est-ce que c'est la main, pas la main, ça monte. J'ai du mal à me positionner aujourd'hui, n'ayant pas vu beaucoup d'autres ralentis que ça. C'est vrai que ça, pour moi ça laisse place au doute. Et sur ce genre de match-là qui se joue à un point avec une décision sur le 4 appuis de la fin de match, peut porter à confusion et je peux en convenir.
En gros, ce que vous êtes en train de nous dire, les gars, c'est que bon, Ben O'Keefe, ok, mais Ben O'Keefe, ça va vite, il prend sa décision terrain, et qu'en fait, peut-être le responsable de tout ça, c'est ce TMO, cet arbitre vidéo, qui pour le coup ne prend peut-être pas ses responsabilités, ou en tout cas.
Pas du tout. J'ai pas du tout dit ça.
Non, alors, mais voilà, justement,
c'est en fait, au contraire, ce qui est très important surtout, c'est se dire que l'arbitre vidéo, lui, valide. C'est-à-dire que pour moi, les deux premières actions de Etzebeth et la chasse de Colby sur la transformation, ces deux actions-là, s'il n'est pas intervenu, il a validé. C'est-à-dire que, nous, en off, c'est-à-dire que l'arbitrage s'appelle ça du off, il a dû dire à Ben, tout va bien. À partir du moment où il dit à Ben, tout va bien, on n'est pas obligé d'appel formel. C'est la volonté aussi du bunker. La volonté du bunker, c'est faire cet appel où ça nécessite 3-4 minutes de revisionnage pour être sûr de la zone d'impact, pour éviter de perdre 3-4 minutes chaque fois par action dans le match, dans le stade, avec les gens qui crient, etc., etc. Et je trouve ça très cohérent, le bunker, dans cette formule-là. Et donc, pour moi, Brandon Pickerill a pris des décisions qui étaient adaptées au fonctionnement de l'équipe de 4 sur le terrain.
Y compris sur le carton jaune à Etzebeth. Moi, je t'avoue que je ne comprends plus un peu, parce que je ne trouvais pas de circonstances atténuantes, je ne trouvais pas que Antonio se baissait. Alors on m'a dit, il fait un crochet, Antonio, et Etzebeth vient tête contre tête. À une époque, c'était sûr qu'il y avait rouge, dès qu'il y avait contact avec la tête, on dit protégeons les joueurs. Et moi, je suis un peu. Il y a des collègues qui m'ont dit non, c'était plutôt jaune, Julien Landry pour ne pas le citer. Et moi, je m'étais dit, il va y avoir rouge. Donc, qu'est-ce que tu peux nous.
Après,
nous dire,
après si Julien Landry s'y connaissait, ça serait.
La balle perdue.
Bon. Comme ça, quand tu vas l'entendre mettre un petit texto, il va m'engueuler, je suis trop content. Voilà. On est au-delà de ça. Et c'est une bonne personne, une belle personne, Julien. Non, je rigole. Pour en revenir à ça, en fait, l'après-midi, il y a eu la même chose sur le match de Mathieu Reynal, que je trouve d'ailleurs très bon, sur Angleterre-Fidji. Mathieu, il y a le step en fait. Et l'après-midi, sur le match de Mathieu, ils mettent en avant le bunker dans la décision des arbitres, mais en avant qu'il y a eu un changement de step, de côté, très tard, qui n'a pas permis d'ajuster le plaquage. Et du coup, le soir, quand j'ai vu le match, j'étais pas tout seul, j'étais avec quelques joueurs d'Angoulême.
Tu savais que ça ne ferait pas rouge.
Je me suis dit, en fait, ils sont cohérents, ils vont se servir de la même argumentation. Et je trouve que c'était adapté et que ça faisait de la cohérence vis-à-vis des deux actions du même jour.
Du coup, Alex, pour un peu, on va pas refaire tout, parce qu'après on veut élargir un peu le débat aussi, pour toi, l'arbitrage de Ben O'Keefe, il est plutôt cohérent en fait.
En fait, aujourd'hui, je crois qu'il y a une chose à être honnête, il faut dire la vérité. On a toujours une part de chauvinisme, moi le premier. Maintenant, quand j'étais avec Jamba à Montpellier, ou Philippe Saint-André, on avait toujours...
Oui, tu gueulais après l'arbitre sur le bord du terrain.
Ben, je pouvais. Avec Jamba, on ne savait pas que c'est. Alors, Jamba Wilfried te disait que c'était ma voix, mais je te disais que c'était la sienne. Moi, je peux te dire que c'était la sienne. Donc, mais au-delà de ça, oui, tu peux, parce que tu as la pression, tu as le fait que tu es en désaccord, et puis tu n'es jamais, à mon sens, très objectif, si ce n'est 3-4 jours après. On peut se dire aussi que est-ce que Ben O'Keefe a arbitré comme on a arbitré au quotidien dans le championnat français européen ? Peut-être pas. Par contre, moi, ce qui me semble, c'est que de la première à la 80e, il avait un fil conducteur. Et je l'ai trouvé, c'est ça à vos collègues de l'équipe, ce que j'ai dit, cohérent sur la partie. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il arbitrait pareil de la première minute à ce qu'il arbitrait à la 80e minute. Mmh. De là à être d'accord avec tout, ce n'est pas la question. Par contre, de là à dire qu'il a changé d'un côté ou de l'autre, je ne pense pas, en tout cas.
Mmh. Et Wilfried, on voulait aussi parler un peu de... du fait que peut-être que nous, spectateurs, téléspectateurs, la Coupe du Monde, c'est un événement. Il y a beaucoup de gens peut-être qui ont découvert le rugby, mais on n'est pas sensibilisé peut-être déjà aux règles du rugby. Ça, voilà, ça c'est une certitude, c'est difficile, c'est des fois un peu subjectif. On a du mal à s'y retrouver. Et surtout, on a l'impression que les philosophies d'arbitrage changent en fonction de la personne qui arbitre. Et c'est peut-être sur ça, oui, en fait, où des fois on peut s'y perdre. Tu regardes un match 2 heures avant et 3 heures après, tu dis purée, mais il y en a un qui est vachement permissif dans les rucks et l'autre, il sanctionne à fond. Donc c'est là où on a du mal à se situer.
Au-delà de récompenser peut-être à un moment la domination d'une équipe, et c'est quelque chose qui se met en route au fil à mesure des minutes et des fins de match. Il y a ce que tu viens de dire, Alex. C'est un sudiste. Alors, comment expliquer aux gens la petite nuance entre l'arbitrage du Sud et peut-être du Nord sur certains matchs de la Champions Cup? C'est pas pareil que dans le Super Rugby. Je sais pas comment tu peux résumer ça ou le dire.
Alors moi, j'ai un avis très tranché utilement. Sur ça. J'ai un avis très tranché sur ça. Le premier, c'est parce que j'ai, dans ma réponse de la question d'avant, j'ai oublié juste de dire que Ben O'Keefe, s'il est désigné pour faire la demi-finale de la Coupe du Monde, c'est que pour les sélectionneurs, et donc, dont une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est Joël Judge, que je trouve très compétent, qui est le manager des équipes des arbitres du monde, s'il pose sur un papier Ben O'Keefe, c'est que pour lui et le comité de sélection, en tout cas, Ben O'Keefe mérite d'arbitrer une demi-finale.
Ouais, il a fait le taf, il a fait le job. Ouais.
Parce et qu'il a réussi son quart, quelque part.
Parce que techniquement, il a répondu aux attentes des directives de la World Rugby. Et donc ça, c'est quand même... Et puis Joël, étant français, très intègre, s'il fait, c'est qu'il pense que Ben est l'homme de la situation. Ça, c'est le premier, pour revenir à la question d'avant. Et ensuite, pour répondre à ta deuxième question, il y a plusieurs paramètres. Et tu vois, j'en ai beaucoup parlé avec Jean Baillissold. En fait, nous, on a un championnat, on a des descentes. Et donc, dans le championnat où tu as des descentes, qui n'est pas la même chose que dans d'autres championnats, dans le Sud, où tout est porté vers l'offensive, nous, on a le championnat où on a peur de descendre. Et donc, des fois, quand tu n'as pas le potentiel de grandes équipes, soit de la top 14, soit des grandes équipes de Pro D2, qui ont une liberté, une confiance en eux pour avoir un rugby aéré, tu es dans un rugby pour ne pas perdre. Et de ce fait-là, la façon d'arbitrer, que ce soit en Europe ou en France, n'est pas du tout la même chose quand tu arbitres le Sud. Où eux, automatiquement, la seule peur qu'ils aient, c'est de gagner le championnat. Ouais. Et donc, ils jouent tout. Et ils sont habités, ces mecs-là, à diriger des rencontres qui sont très ouvertes offensivement et de spectacles, entre guillemets, sur lesquels nous, en Europe et en France, on est...
D'être un peu moins tatillon, si on résume.
En tout cas, merci beaucoup. Merci Alexandre d'avoir été avec nous, d'avoir pu nous éclairer un petit peu sur l'arbitrage de Ben O'Keefe. Et il faudra qu'on en reparle. Bien sûr, on en reparlera.
Forcément. Non mais c'est vrai, parce qu'on en parle qu'assez peu dans les saisons et on l'a déjà fait entre les poteaux, on l'a déjà eu Alex, on a déjà eu Mathieu Reynal. Et c'est important de vous donner la parole parce que cette fois vous êtes un peu bridé, vous pouvez pas... Voilà, après vous êtes... Toi tu es un ancien arbitre donc tu peux plus parler, mais c'est bien d'éclairer les gens là-dessus, je pense que c'est important.
Ouais. Alex, bon courage avec Soyons Angoulême, on vous souhaite une bonne saison. Beaucoup. On
merci
espère
beaucoup.
Que vous allez redresser
merci
la barre. Tu me disais en off qu'il y avait pas mal de blessures, donc on espère que ça va tourner et
on
que vous allez chercher un résultat à Colomiers, je crois. Vous jouez à Colomiers.
Tu seras bien arbitré lors des prochains matchs.
À la sudiste. N'hésitez pas à partager le podcast. Entre les poteaux, vous retrouvez un épisode par jour sur toutes les plateformes. Bye bye, à demain. Ciao.